Le cheval, Léon Tolstoï. Chapitre 4. Il était vieux et ils étaient jeunes. Il était maigre et eux étaient bien en chair. Il était morne et eux toujours gais. Par conséquent, il leur était complètement étranger. Il leur apparaissait tout différent d'eux et ils ne pouvaient en avoir pitié. Les chevaux n'ont de pitié que pour eux-mêmes et parfois, rarement, pour ceux dans la peau desquels ils peuvent se représenter aisément. Était-ce cependant la faute du hongre-pie s'il était vieux et flanqué et laid ? Il semblerait que non, mais d'après la logique chevaline, il se trouvait fautif et seuls avaient toujours raison ceux qui étaient robustes, jeunes et heureux, ceux qui avaient toute la vie devant eux, ceux dont chaque muscle frémissait d'une tension inutile et dont la queue se dressait verticalement. Peut-être le hongre-pie le comprenait-il lui-même, et peut-être admettait-il dans ses moments de calme qu'il était réellement coupable d'avoir déjà vécu son existence et qu'il lui fallait payer à présent la rançon de cette existence. Mais étant un cheval tout de même, souvent il ne pouvait réprimer un sentiment de tristesse et d'indignation à la vue de toute cette jeunesse qui le châtiait pour cela, même qu'elle serait condamnée à subir à la fin de son existence. La cruauté des jeunes chevaux tenait également à la conscience qu'ils avaient de leurs origines aristocratiques. Chacun d'eux faisait remonter son ascendance du côté paternel ou maternel, jusqu'à la célèbre crème. Or, le hongre-pie était d'origine inconnue. C'était un étranger, payé 80 roubles en assigna 3 ans auparavant à la foire. La pouliche baie passa, comme en se promenant sous le nez du hongre-pie, et le poussa. Il savait déjà ce que cela signifiait, et sans ouvrir les yeux, il coucha les oreilles et montra les dents. La pouliche lui tourna le dos et fit mine de vouloir le frapper. Il ouvrit les yeux et s'écarta. Il n'avait plus l'envie de dormir et se remit à manger. L'espiègle, suivi de ses compagnes, s'approcha de nouveau. Une jument chauve de 2 ans, fort sotte, qui toujours imitait la baie, s'approcha également et, ainsi que font d'ordinaire les imitateurs, en singeant sa compagne, elle exagéra. D'habitude, la pouliche baie s'approchait comme si elle ne songeait qu'à ses propres affaires et passait sous le nez du hongre d'un air désinvolte, sans regarder, de sorte qu'il ne savait s'il devait ou non se fâcher. Et cela était effectivement très drôle. Elle fit de même, cette fois-ci. Mais la jument chauve qui la suivait et était particulièrement gaie heurta le hongre en pleine poitrine. Il montra de nouveau les dents, poussa un cri et, avec une vivacité dont on ne l'eût pas cru capable, mordit la sotte à la cuisse. Alors, la jument chauve lança son arrière-train et frappa douloureusement les côtes saillantes du vieillard. Celui-ci poussa une sorte de râle et voulut répondre à l'attaque, mais y renonça, poussa un profond soupir et s'éloigna. Sans doute tous les jeunes du troupeau ressentirent-ils comme une offense personnelle l'attitude impertinente du hongre à l'égard de la jument chauve. Et pendant tout le reste du jour, on ne lui permit pas de manger en paix, on ne le laissa pas tranquille un seul instant, tant et si bien que Nestère, obligé d'intervenir à maintes reprises pour calmer les chevaux, se demandait ce qu'ils avaient à s'agiter. Le hongre-pie était si profondément offensé qu'il s'approcha lui-même de Nestère quand le vieux se prépara à ramener le troupeau. Et il ne se sentit calmé et heureux que lorsque le gardien le sella et monta sur son dos. Dieu sait à quoi songeait le hongre en emportant Nestère sur son dos. Pensait-il avec amertume à l'inlassable cruauté de la jeunesse ou bien pardonnait-il à ses offenseurs avec l'orgueil méprisant et silencieux propre au vieillard? Quoi qu'il en fût, il ne laissa rien voir de ses réflexions jusqu'à la maison. Ce soir-là, des amis étaient venus rendre visite à Nestère. En passant avec le troupeau par le village, il aperçut devant le perron de son isba une charrette attelée d'un cheval. Ayant rentré le troupeau dans l'enclos, dans sa hâte, il négligea d'enlever la selle du hongre, cria à Vaska de le desceller, ferma la porte cochère et alla retrouver ses amis. Fût-ce la conséquence de l'affront fait à la jument chauve, petite fille de la célèbre crème, par le sale galeux acheté à la foire et qui ne connaissait ni son père ni sa mère? Tout le troupeau se sentit-il atteint dans son orgueil aristocratique? Ou bien le hongre, avec sa haute selle sans cavalier, offrait-il aux chevaux un spectacle bizarre, fantastique et qui les excitait? En tout cas, cette nuit-là, il se passa dans l'enclos quelque chose d'extraordinaire. Montrant les dents, tous les chevaux, jeunes et vieux, poursuivaient le hongre, le chassant à travers la cour. On entendait le choc des sabots contre ses flancs décharnés et le pénible halètement du vieillard. Le hongre ne pouvait plus supporter cela. Il ne pouvait éviter les coups. Il s'arrêta au milieu de la cour. Toute son attitude exprimait la répugnante et débile colère de la vieillesse impuissante et le désespoir. Il coucha les oreilles et soudain il se produisit une chose inattendue qui calma instantanément les chevaux. La jument la plus âgée, Vyasopurika, s'approcha du hongre, le flaira et soupira. Le hongre soupira aussi. Chapitre 5. Au milieu de la cour éclairée par la lune se dressait la haute et maigre silhouette du hongre, avec sa grande selle surmontée du bec de l'arçon. Les chevaux se tenaient autour de lui, immobiles et silencieux, comme s'il venait d'apprendre quelque chose de tout nouveau et d'inattendu. Et en effet, ce qu'ils apprenaient de lui était nouveau et inattendu. Voici ce qu'ils apprirent. Première nuit. Oui, je suis le fils d'Aimable Ier et de Baba. Mon nom, d'après le livre des origines, est Mouchik Ier, mais on m'a surnommé l'Arpenteur à cause de ma foulée large et rapide, qui n'avait pas son égal dans toute la Russie. Je suis de naissance plus noble que quiconque. Jamais je ne vous l'aurais dit. À quoi bon? Vous ne m'auriez pas reconnu, comme ne m'avait pas reconnu Vyasopurika, qui était avec moi au haras de Krenov, et qui vient seulement de me reconnaître à l'instant. Vous ne m'auriez pas cru sans le témoignage de Vyasopurika. Je ne vous aurais jamais parlé de moi. Je n'ai que faire de la pitié chevaline, mais vous l'avez voulu. Oui, je suis cet arpenteur que cherchent en vain les amateurs, que connaissait le comte lui-même et qu'il chassa du haras parce que j'avais battu à la course son favori, Signe. Quand je naquis, je ne savais pas ce que signifiait le mot « pie ». Je croyais que j'étais un cheval comme les autres. Je me souviens que la première remarque que l'on fit sur mon pelage me surprit profondément, ainsi que ma mère. Je naquis sans doute la nuit. Au matin, léché par ma mère, je me tenais déjà sur mes pattes. Je me souviens que j'avais tout le temps envie de quelque chose et que tout me paraissait extraordinaire et cependant fort simple. Nos boxes donnaient sur un long couloir tiède et l'on pouvait voir à travers les portes grillagées. Ma mère me présentait ses tétines, mais j'étais si naïf que je la heurtais du nez, tantôt entre ses pieds de devant, tantôt sous la queue. Soudain, ma mère tourna la tête vers la porte et, passant sa patte par-dessus moi, elle recula un peu. Le palefrenier de corvée regardait dans notre box à travers le grillage. « Eh bien, Baba a pouliné, » dit-il en tirant le loquet. Il entra et m'entoura de ses bras. « Vois un peu, ta race, » cria-t-il. « Vois, il est taché comme une pie. » Je m'échappais de ses bras et tombais sur les genoux. « Voilà un diablotin, » dit-il. Ma mère se montrait inquiète. Cependant, elle ne prit pas ma défense et s'éloigna d'un pas en poussant un profond soupir. D'autres palefreniers entrèrent et se mirent à m'examiner. L'un d'eux alla appeler le gardien de l'écurie. Tous ces gens riaient à cause de ma robe pie et on me donnait toutes sortes de surnoms étranges. Ni moi ni ma mère ne comprenions le sens de ces appellations. Jusqu'à ce jour, il n'y avait encore jamais eu de cheval pie dans ma famille. Et nous ne nous doutions pas que ces tâches fussent répréhensibles. D'autant plus que tout le monde admirait ma complexion, ma force. « Voyez un peu comme il est vif, » dit le palefrenier. « Impossible de le maintenir. » Au bout de quelque temps arriva le gardien. Ma robe le surprit lui aussi. Il paraissait même vexé. « D'où sort ce laideron ?» dit-il. « Le général ne le laissera pas au haras. »« Eh, baba, tu m'as joué un mauvais tour, » fit-il en s'adressant à ma mère. Si au moins il avait été chauve. Mais non, c'est un pis. » Ma mère ne répondit mot. Et comme toujours, dans de tels cas, elle se contenta de soupirer. « De qui tient-il ça ? On dirait un moujik, » continua le gardien. « Impossible de le laisser au haras, ce serait une honte. Et pourtant, il est bon, très bon, » ajouta-t-il, comme tous ceux qui m'examinaient. Quelques jours plus tard, le général vint en personne. Il me regarda attentivement, et tout le monde de nouveau paraissait consterné et me grondait, ainsi que ma mère, à cause de mes tâches. « Cependant, il est bon, très bon, » répétaient tous ceux qui me voyaient. Jusqu'au printemps, nous vécûmes dans nos box, chacun auprès de notre mère. Mais quand la neige commença à fondre sur les toits, aux rayons du soleil, on nous permit de sortir de temps en temps avec nos mères dans la large cour couverte de paille fraîche. C'est ici que je fis la connaissance de ma parenté proche et éloignée. Suivis de leurs poulains, des différentes portes sortaient les juments célèbres de cette époque. Hollandaises, petites mouches, rouges, volontaires. Elles arrivaient toutes avec leurs poulains, se promenaient au soleil, se roulaient sur la paille et se flairaient mutuellement, tout comme de simples chevaux. Je ne puis encore oublier le tableau que présentait cette cour, remplie des plus belles juments de ce temps. Il vous est difficile de croire que j'ai été autrefois jeune et vif. Et pourtant, c'est la vérité. Il y avait là cette Via Soporica que voici. C'était une pouliche d'un an, charmante, gaie et espiègle. Mais soit dit sans l'offenser, et elle-même d'ailleurs vous le confirmera, bien que vous l'estimiez pour la pureté de son sang, elle était considérée comme un des plus médiocres produits de notre génération. Ma robe tachetée, qui déplaisait beaucoup aux hommes, plaisait beaucoup aux chevaux en revanche. On m'entourait, on m'admirait, on me faisait fête. Je commençais déjà à oublier le mécontentement des hommes et me sentais heureux. Mais je connus bientôt le premier chagrin de mon existence et c'est ma mère qui en fut la cause. Quand vint le dégel, quand les moineaux se mirent à pépier sous les hauts vents et que l'air se fit doux, ma mère commença de changer d'attitude à mon égard. Son humeur se modifia complètement. Tantôt, sans raison aucune, elle se mettait à courir, à jouer dans la cour, ce qui ne convenait nullement à son âge respectable. Tantôt elle devenait songeuse et se mettait à hennir, tantôt elle donnait des ruades à ses compagnes et les mordait. Parfois elle me flairait, puis soufflait d'un air mécontent. Ou alors elle posait sa tête sur l'épaule de sa cousine, marchande, lui grattait le dos et me repoussait lorsque je voulais la téter. Un jour nous vîmes arriver le gardien d'écurie. Il lui fit passer un licou et ordonna de l'emmener. Elle poussa un hennissement. Je lui répondis et m'élançai derrière elle, mais elle n'eut même pas un regard pour moi. Le palefrenier, Taras, me saisit dans ses bras tandis que l'on fermait la porte derrière ma mère. Je fis un bond et renversai le palefrenier dans la paille, mais la porte était déjà fermée et le hennissement de ma mère s'éloignait de plus en plus. Ce n'était pas un appel d'ailleurs, il avait une expression toute nouvelle. Et soudain, à sa voix, répondit une autre voix puissante, celle de Bon Premier, comme je l'appris plus tard, qui flanquait de deux palefreniers venait à la rencontre de ma mère. Je ne me souviens pas comment Taras sortit du box. J'étais trop triste. J'avais l'impression d'avoir perdu pour toujours l'amour de ma mère. « C'est parce que je suis pie, » me disais-je, me rappelant les paroles des hommes sur mon pelage. Et soudain, une telle fureur me prit que je me mis à me battre de la tête et des genoux contre les murs du box. Je ne m'arrêtai que lorsque je fus complètement épuisée, en sueur. Au bout de quelque temps, ma mère revint. Je l'entendis approcher de la porte d'un petit trot qui n'était pas coutumier. La porte s'ouvrit et je ne la reconnus pas, tellement elle avait rajeuni et embelli. Elle me flaira, souffla bruyamment et poussa un petit cri. Je vis à toute son attitude qu'elle ne m'aimait plus. Elle me parlait de la beauté de Bon Premier et de son amour. Leurs rendez-vous continuèrent et ma mère devenait de plus en plus froide à mon égard. Bientôt, on nous lâcha dans le pré. À partir de ce moment, je connus d'autres joies qui remplacèrent pour moi l'amour maternel. J'avais des camarades. Tous ensemble, nous apprenions à manger de l'herbe, à hennir comme les grands et à galoper la queue en panache autour de nos mères. C'était l'heureux temps. On me pardonnait tout. Tous m'aimaient, m'admiraient et se montraient pleins d'indulgence pour ce que je faisais. Cela ne dura pas longtemps. C'est alors qu'il m'arriva une chose affreuse. Le hongre-pie poussa un profond soupir et s'éloigna des autres chevaux. L'aurore avait déjà gagné une grande partie du ciel. La porte grinça et Nestère entra dans l'enclos. Les chevaux se dispersèrent. Le gardien arrangea la selle du hongre et fit sortir le troupeau. Chapitre 6. Deuxième nuit. Aussitôt que les chevaux furent rentrés dans l'enclos, ils se rassemblèrent de nouveau autour du vieux hongre. Dans le courant d'août, on nous sépara, ma mère et moi, reprit le hongre, et je n'en ressentis aucun chagrin particulier. Je voyais qu'elle portait déjà mon frère cadet, celui qui fut plus tard le célèbre moustache. Et moi-même, je n'étais plus telle qu'autrefois. Je n'éprouvais pas de jalousie, mais je me sentais plus froid à son égard. Je savais de plus qu'on allait m'installer dans l'écurie réservée aux poulains, où ceux-ci occupaient un box à deux ou à trois et sortaient le matin tous ensemble. Je partageais mon box avec Charmant, que devait monter plus tard l'empereur et que l'on représenta en peinture et en sculpture. Ce n'était encore en ce temps qu'un poulain au pelage brillant et soyeux. Il avait un cou de cygne et des jambes fines et droites. Il était toujours gai, aimable, bienveillant, toujours prêt à jouer, à lécher et à taquiner, aussi bien ses compagnons que les hommes. Nous devînmes amis en vivant ensemble et cette amitié dura tout le temps de notre jeunesse. Déjà, alors, il commençait à faire la cour aux pouliches et se moquait gentiment de mon innocence. Pour mon malheur, je l'imitais par amour-propre et bientôt je pris goût à l'amour. Cette précoce inclination fut la cause du bouleversement de ma destinée. Je devins amoureux. Vyasopurika avait un an de plus que moi. Nous nous liâmes d'amitié, mais à la fin de l'automne, je remarquai qu'elle semblait m'éviter. Je ne vous raconterai pas la triste histoire de mon premier amour. Elle se souvient certainement de ma belle passion qui aboutit à la catastrophe de mon existence. Les gardiens du troupeau se précipitèrent pour la chasser et se mirent à me battre. Le soir, on m'enferma dans un box particulier. Je ne cessais de hennir toute la nuit comme prévoyant l'événement qui m'attendait le lendemain. Le lendemain matin, le général, le chef d'écurie, les palefreniers, les gardiens, tous se réunirent dans le corridor de mon box. Ils criaient tous ensemble. Le général injuriait le chef d'écurie. Celui-ci essayait de se justifier, disant qu'il avait interdit de me lâcher et que c'était la faute des palefreniers. Le général menaça de faire donner le fouet à tout le monde. Le chef d'écurie promit de faire ce qu'il fallait. Après quoi, tout le monde s'en alla. Je ne comprenais rien, mais je devinais que l'on tramait quelque chose contre moi. Le lendemain, je cessais pour toujours de hennir. Je devins ce que je suis maintenant. Le monde entier se transforma à mes yeux. Plus rien ne m'était cher. Je rentrai en moi-même et me mis à réfléchir. Au début, la vie me devint odieuse. Je cessais même de boire, de manger, de me promener. Quant au jeu, je n'y songeais même plus. De temps à autre, il me venait à l'idée de ruer, de sauter, de hennir. Mais aussitôt surgissait la terrible question. Pourquoi ? Dans quel but ? Et mes dernières forces me quittaient. Un soir, on me sortit à l'heure où le troupeau rentrait des champs. J'aperçus encore de loin un nuage de poussière, où se distinguaient les contours vagues mais familiers des juments. J'entendis de joyeux hennissements, des piétinements. Je m'arrêtai, bien que la corde du licou que tenait le palefrenier me coupât la nuque, et je contemplai le troupeau qui s'approchait comme on contemple un bonheur perdu que l'on ne retrouvera plus jamais. Il s'approchait, et je reconnaissais les unes après les autres les silhouettes familières, belles, fières et robustes. Quelques-unes se retournèrent vers moi. Je ne sentais pas la douleur du licou que tirait le palefrenier. J'avais perdu la notion des choses, et involontairement, comme autrefois, je poussai un hennissement et me mis à trotter. Mais mon appel résonna, triste, ridicule. Absurde, personne ne rit dans le troupeau. Mais je remarquai que beaucoup se détournèrent de moi par délicatesse. Les juments avaient honte de moi et pitié, et surtout je leur paraissais comique. Elles trouvaient comique mon long cou inexpressif, ma grosse tête, j'avais maigri, mes longues jambes gauches, et surtout l'allure stupide de mon trot lorsque, obéissant à une vieille habitude, je me mis à tourner autour du palefrenier. Personne ne répondit à mon hennissement. Tout le monde se détourna de moi. Brusquement, je compris tout. Je compris combien j'étais à jamais loin de tous. Je ne me souviens pas comment je rentrais à l'écurie avec le palefrenier. Déjà auparavant, j'avais manifesté une certaine tendance à la gravité et à la méditation. Mais un changement décisif s'opérait maintenant en moi. Mon pelage-pie, qui provoquait un si étrange mépris chez les hommes, mon malheur terrible, inattendu, et la situation particulière que j'occupais au haras, dont je me rendais compte mais que je ne parvenais pas à m'expliquer, tout cela m'incita à rentrer en moi-même. Je réfléchissais à l'injustice des hommes qui m'avaient condamné parce que j'étais pie. Je réfléchissais à l'inconstance de l'amour maternel, de l'amour féminin en général qui dépendait entièrement des circonstances physiques. Je réfléchissais surtout aux particularités de cette étrange espèce d'animaux avec laquelle nous sommes si étroitement liés que nous appelons les hommes. À ces particularités d'où découlait la situation où je me trouvais au haras et que je sentais sans pouvoir la comprendre. Je la compris, ainsi que certains traits de la nature humaine dans les circonstances suivantes. C'était en hiver, pendant les fêtes de Noël. De toute la journée, je n'avais eu ni à boire ni à manger. Ainsi que je l'appris plus tard, notre palefrenier s'était enivré. Le soir même, le chef d'écurie entra dans mon box, constata que je n'avais pas de fourrage et se mit à injurier le palefrenier absent. Puis, il sortit. Le lendemain, le palefrenier vint avec un camarade et m'apporta du foin. Je remarquai qu'il était très pâle et triste. Son long dos avait une expression particulière qui incitait à la pitié. Il lança furieusement le foin derrière la grille de la mangeoire. Je tendis la tête par-dessus son épaule, mais il me porta un coup de poing si violent sur le nez que je me rejetai en arrière. Il me frappa encore le ventre avec sa botte. « Sans ce galeux, il ne serait rien arrivé, » dit-il. « Et qu'est-il arrivé ?» demanda l'autre palefrenier. « Naturellement, pour ceux du comte, il ne va pas vérifier ce qui s'y passe, hein, mais le sien, il vient le voir 2 fois par jour. »« Alors on lui a donné le pis ?» interrogea l'autre. « Vendu ou donné, le diable le sait. Ceux du comte, tu pourrais tous les laisser crever de faim, ils s'en moquent. Mais comment a-t-on osé ne pas nourrir son poulain ?»« Allonge-toi, » m'a-t-il dit, et il s'est mis à taper. « Ce n'est pas chrétien, il a plus pitié d'un animal que d'un homme. Il ne porte pas de croix, sans doute. Et lui-même comptait les coups. Le général ne frappe pas ainsi, il m'a déchiré tout le dos. Ce n'est pas une âme chrétienne. » Ce qui concernait le fouet et la religion, je l'avais fort bien compris. Mais ce qui me paraissait alors obscur, c'était l'expression « son poulain ». Les hommes établissaient donc un certain lien entre moi et le chef d'écurie ? Mais je ne parvenais pas à comprendre en quoi consistait ce lien. Je ne le compris que bien plus tard, quand on me sépara des autres chevaux. Mais alors je ne saisissais pas comment on pouvait me considérer, moi, comme la propriété d'un homme. Les mots « mon cheval » se rapportaient à moi, un cheval vivant. Et il me paraissait aussi étrange que les mots « ma terre »,« mon air », »,« mon eau ». Mais ces mots m'avaient produit une profonde impression. Je ne cessais d'y réfléchir. C'est beaucoup plus tard seulement, après avoir entretenu avec les hommes les rapports les plus divers, que je compris la signification qu'attachent les hommes à ces mots. Voici quelle est cette signification. Ce n'est pas d'après les actes, mais d'après les paroles que les hommes se dirigent dans la vie. Ce qu'ils apprécient, ce n'est pas tant la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose, que la possibilité de prononcer au sujet de différents objets certains mots dont ils sont convenus entre eux. Ces mots qu'ils considèrent comme très importants sont « mon »,« ma », »,« mes ». Ils les appliquent aux êtres, aux objets, même à la terre, aux hommes, aux chevaux. Et ils sont convenus entre eux qu'un même objet ne pouvait être appelé « mon » que par une seule personne. Et celui qui, conformément à ce jeu, dit « mon » du plus grand nombre d'objets possibles, est considéré comme le plus heureux. Pourquoi est-ce ainsi ? Je l'ignore, mais c'est ainsi. Naguère, je pensais que cela était lié à quelques avantages directs, mais je me trompais. Nombre de ceux qui me considéraient comme leur cheval ne me montaient jamais. C'était d'autres qui me montaient, d'autres encore qui me nourrissaient. C'était les cochers, les maréchaux ferrants qui me rendaient différents services, et non pas ceux qui disaient « mon cheval ». Plus tard, ayant élargi le cercle de mes observations, je pus me convaincre que ce n'est pas seulement lorsqu'il se rapporte à nous, les chevaux, que le terme « mon » n'a d'autre raison que ce bas instinct dénommé par les hommes « sentiment » ou « droit de propriété ». L'homme dit « ma maison », et cependant il n'y habite pas et se contente de la construire et de l'entretenir. Le marchand dit « ma boutique »,« mon magasin de draps ». Or, lui-même ne porte pas le bon drap qu'il détient dans sa boutique. Il y a des gens qui disent de la terre « ma terre ». Cependant, ils n'ont jamais vu cette terre et n'ont jamais parcouru. Il y a des gens qui prétendent que d'autres hommes leur appartiennent. Ils ne les ont jamais vus. Et le seul rapport qu'ils entretiennent avec eux consiste à leur faire du mal. Il y a des hommes qui appellent certaines femmes « ma femme »,« mon épouse ». Or, il se trouve que ces femmes vivent avec d'autres hommes. Le but des humains ne consiste pas à accomplir ce qu'ils considèrent comme bon, mais à appeler « mien » le plus grand nombre d'objets. Je suis persuadée à présent que c'est en cela que réside la différence essentielle entre les hommes et nous. Aussi, sans même tenir compte de nos autres supériorités vis-à-vis des hommes, cela seul nous permet déjà de déclarer hardiment que sur l'échelle des êtres vivants, nous occupons un échelon plus élevé que les hommes. L'activité des hommes, de ceux du moins avec qui j'ai été en contact, est déterminée par des mots, tandis que la nôtre est déterminée par des faits. C'était donc le chef d'écurie qui avait reçu le droit de m'appeler son cheval. Et ce fut pourquoi il fouetta le palefrenier. Cette découverte me frappa. Jointe aux réflexions et aux jugements qu'avait provoqué parmi les hommes mon pelage pie, ainsi qu'à la mélancolie suscitée en moi par la trahison de ma mère, la dite découverte fit de moi ce que je suis aujourd'hui, un ongre grave et méditatif. J'étais trois fois malheureux, j'étais pie, j'étais ongre, et les hommes s'imaginaient que j'appartenais non pas à Dieu et à moi-même, ainsi qu'il est normal pour tout être vivant, mais au chef d'écurie. Les conséquences de l'idée qu'il se faisait de moi furent multiples. La première fut que l'on me mit à part, on me nourrissait mieux, on me faisait trotter à la longe plus souvent, et l'on m'attela plutôt que les autres. Je n'avais pas 3 ans quand on m'attela pour la première fois. Je me souviens que ce chef d'écurie, qui se figurait que je lui appartenais, arriva avec toute une bande de palefreniers pour m'atteler, croyant que j'allais résister et me révolter. Ils m'entourèrent de cordes en m'introduisant dans les brancards, ils me posèrent sur le dos des courroies en croix qu'ils attachèrent aux brancards afin que je ne puisse pas ruer. Or moi, je n'attendais que l'occasion de montrer ma bonne volonté et mon goût au travail. Ils étaient très étonnés de me voir marcher comme un vieux cheval. À partir de ce jour, on m'exerça à trotter. Je faisais de très grands progrès, si bien qu'au bout de 3 mois, le général lui-même et d'autres louaient mon allure. Mais chose étrange, du fait que j'appartenais selon eux au chef d'écurie, mon allure acquérait à leurs yeux une signification toute particulière. Quant aux autres jeunes chevaux, mes frères, on les préparait pour les courses de trot. On mesurait leur foulée, on les regardait courir attelés à des légers droches qui doraient. Et après leurs essais, on les couvrait de couvertures précieuses. Et moi, attelé au simple droshki du chef d'écurie, je trottais pour ses affaires à Chesmenka et dans les autres villages des environs. Tout cela parce que j'étais pie, et surtout parce que j'appartenais, selon ces gens, non au comte, mais au chef d'écurie. Si nous sommes demain en vie, je vous raconterai quelle fut pour moi la principale conséquence de ce droit de propriété que croyait avoir sur moi le chef d'écurie. Toute cette journée, les chevaux traitèrent l'arpenteur avec respect. Seul Nestère se conduisait avec lui comme d'habitude, fort grossièrement. Le petit cheval gris du paysan hennit en s'approchant du troupeau. Et la pouliche bête fit de nouveau la coquette.